Bonsoir à tous. Nous avançons dans notre étude de la première épître aux Corinthiens et même nous arrivons à notre avant-dernière méditation sur le livre. Tournons au chapitre 15 qui parle de la dernière de nos bénédictions spirituelles mentionnées, comme quoi que nous devons les rechercher, c'est-à-dire rechercher de profiter de nos bénédiction que le Seigneur a prévu pour la vie chrétienne. Cette dernière des bénédictions, c'est notre résurrection qui nous est promise et nous en bénéficions non seulement après la mort ou après le retour du Seigneur Jésus, mais déjà vivant dans une vie ressuscitée. Parce que si nous avons reçu le Seigneur Jésus comme sauveur, nous vivons déjà la vie ressuscitée. Nous sommes morts avec lui dans notre conversion. Nous nous sommes identifiés avec lui dans sa mort. Et maintenant, il nous a donné la vie nouvelle. Et ce n'est pas après la mort physique que nous recevons la vie éternelle, c'est tout de suite à la conversion. Donc, nous devons déjà profiter de cette vie ressuscitée dont il nous appelle à vivre. Et nous le trouvons dans le 15e chapitre d'un Corinthien. Encore, c'est un long chapitre, mais alors nous ferons moins de commentaires, mais une lecture avec un commentaire de temps à autre. Et nous allons parler quand même de l'enseignement que l'apôtre Paul donne sur la résurrection et comment cela devrait affecter notre vie, même maintenant. Nous parlerons d'abord alors de l'authenticité de notre résurrection, parce que après tout, si notre résurrection n'est pas authentique, si c'est simplement quelque chose d'imaginé, alors ça ne sert à rien d'aller plus loin, ça ne peut rien faire pour nous. Mais les 11 premiers versets nous parlent de l'authenticité ou de la véracité de notre résurrection. Lisons-les alors. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il a ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Cephas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Bon, l'évangile inclut la résurrection et Paul atteste le fait que la résurrection est authentique, c'est arrivé pour vrai. Selon les Écritures, et cela déjà devrait suffire, si les Saintes Écritures nous disent une chose, ça devrait suffire pour qu'on le croit, et les Saintes Écritures enseignent que Christ non seulement est mort et enterré, mais qu'il a ressuscité. Alors nous pouvons nous demander comment est-ce que les Saintes Écritures ont enseigné aux Corinthiens que Christ était ressuscité, parce que après tout, de ce temps-là, on avait seulement l'Ancien Testament par écrit. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose dans l'Ancien Testament qui se réfère directement à la résurrection. Même la seule référence qu'il y a peut-être dans l'Ancien Testament aux résurrections, c'est quand le sacrificateur offre un oiseau en sacrifice, et puis il aspergeait un autre oiseau avec son sang, et il lâchait cet oiseau vivant dans le désert. Et il y en a qui pensent que cet oiseau vivant qui est lâché parle de la résurrection de Christ. Mais tous ne sont pas d'accord là-dessus, c'est une question d'opinion. Mais cela peut-être une référence à la résurrection. Mais ce que les Juifs auraient dû savoir, parce que après tout, le Seigneur Jésus trouvait que la résurrection était évidente dans l'Ancien Testament, quand il parlait aux deux disciples sur la route d'Emmaüs, il a dit aux hommes insensés, ayant lent à comprendre tout ce que les Écritures enseignent, comme quoi que Christ devait souffrir et mourir et ressusciter le troisième jour, comment est-ce que les Juifs auraient pu déduire cela? Je pense plutôt par le fait que l'Ancien Testament parle beaucoup de la souffrance et la mort du Messie, et l'Ancien Testament parle aussi de son règne millénaire. Et si les Juifs avaient mis deux et deux ensemble, s'ils avaient vraiment compris que le Messie devait souffrir et mourir, et aussi qu'il devait régner, ils auraient pu déduire qu'entre sa souffrance et sa mort, et son règne millénaire, il aurait fallu bien qu'il ressuscite des morts, parce qu'il ne pourrait pas régner s'il restait mort. Donc c'est ainsi que les Saintes Écritures enseignaient la résurrection du Christ. Mais les Corinthiens n'étaient pas limités simplement à l'enseignement de l'Ancien Testament, quoique cela aurait dû suffire pour eux, mais Paul cite aussi plusieurs témoignages de ceux qui avaient vu le Christ après sa résurrection. Et qu'est-ce qui pourrait être plus évident? Et il dit, finalement, il est apparu à moi-même. Alors, je dis, moi, Paul, que vous connaissez personnellement et qui vous écrit, j'ai vu le Seigneur ressuscité. Et Paul dit, il est apparu à moi comme le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre. Et pourtant, dans sa grâce, Dieu a permis à Paul de voir quelque chose de spécial quand il a vu Christ ressuscité. Les autres apôtres, en voyant le Christ ressuscité, l'avaient vu sur la terre dans son corps ressuscité, et les onze l'avaient vu partir au ciel, et l'ange leur avait dit, ce même Jésus va revenir de la même manière. Mais Paul, quand il l'avait vu, il n'avait pas vu sur la terre et ensuite monté au ciel, il l'avait vu dans le ciel, là où il est pour intercéder pour nous et pour nous préparer une place. Donc Paul, qui s'appelle lui-même indigne d'être appelé apôtre, et le moindre des apôtres, il avait pourtant eu par grâce cette révélation spéciale du Christ ressuscité. Et pour nous aujourd'hui, il est vrai que nous ne connaissons personnellement personne qui ait vu le Christ corporellement, néanmoins nous avons le témoignage des Saintes Écritures, et nous avons l'évidence de l'histoire, et nous avons amplement l'évidence de sa vie dans la vie des chrétiens. Et même des savants qui ont essayé de prouver que la résurrection de Christ est de fausse n'ont jamais réussi. Il y avait un homme en Angleterre qui était déterminé d'aller étudier toutes les évidences et écrire un livre prouvant que Christ n'est de pas ressuscité, que c'est de rien qu'une légende. Et le résultat de ses recherches a été qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Qui a roulé la pierre ?» Et le premier chapitre de ce livre s'appelle « Le livre qui refusa d'être écrit » parce que cet homme est devenu convaincu de la résurrection du Christ. Il y avait deux autres savants en Angleterre qui avaient fait un pacte. Ils s'étaient dit « Bien, nous croyons que les événements les plus importants dans la Bible sont la résurrection de Christ et la conversion de Paul. » Si nous pouvons prouver ces deux événements faux, alors nous allons détruire le christianisme. Alors, l'un a décidé de prouver que la résurrection de Christ est de fausse, et l'autre a décidé de faire des recherches pour prouver que la conversion de Paul est de fausse, et que chacun allait écrire un livre sur ses recherches. Quelques temps plus tard, ces deux savants se sont rencontrés, et celui qui est avait essayé de prouver la fausseté de la résurrection de Christ, a dit à son collègue, eh bien, le résultat de mes recherches, c'est que je crois maintenant la résurrection de Christ. Et son collègue a dit, et moi, le résultat de mes recherches, c'est que je crois que la conversion de Paul est vraie. Alors voyez-vous, ceux qui essaient de prouver le contraire aujourd'hui ne réussissent pas à trouver de vraies preuves. Mais dans le fond, le témoignage de Saintes Écritures devrait nous suffire pour qu'on croit à l'authenticité de la résurrection. Ensuite, les versets 12 à 34 parlent de la nécessité de notre résurrection. Nous avons établi que d'après les Saintes Écritures, la résurrection est authentique, mais pourquoi y tenir au moins que ce soit important pour une raison quelconque? Donc, lisons les versets 12 à 34 qui nous parlent de la nécessité de la résurrection. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aura pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il a les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son événement, ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui ont été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que ferait ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Pourquoi alors est-il si important qu'il y ait la résurrection des morts? Bien, une bonne raison, s'il n'y avait pas de vie après la mort, pas de résurrection, Christ ne serait pas ressuscité. Et la résurrection de Christ est nécessaire à notre foi. Si Christ n'est pas ressuscité, nous n'aurions aucune assurance que Dieu est satisfait avec son sacrifice d'expiation sur la croix. Si Dieu l'avait laissé mort, bien, nous pourrions dire, il n'a pas fini de payer la peine de nos péchés. Donc, nous n'avons aucune assurance que son œuvre est suffisante. La résurrection a déclaré que la justice de Dieu est satisfaite par son œuvre sur la croix. En conséquence, nous pouvions avoir le pardon du péché. Et c'est par la résurrection aussi qu'il a été déclaré fils de Dieu, selon Romains 1:4. C'est la preuve de sa divinité. Aussi, puisque les Saintes Écritures enseignent la résurrection du Christ, alors qu'est-ce que ça fera à notre confiance si finalement il n'y avait pas de résurrection des morts? Et c'est par sa résurrection des morts que Christ démontre qu'il a gagné la victoire sur la mort. L'homme naturel, quoi qu'il essaie de faire croire, quoi que soit l'apparence qu'il essaie d'acquérir, il a une crainte de la mort. Et c'est seulement en Christ que cette crainte peut vraiment être enlevée, la victoire sur la mort. Et en effet, nous serions, d'après le verset 19, les plus malheureux de tous si nous avions espérance en Christ seulement dans cette vie. Le mot traduit malheureux qui prend le sens de pitoyable, parce que nous faisons des sacrifices et nous connaissons le rejet, une certaine persécution à cause de Christ. Il y a beaucoup qui plaira à la chair, mais auquel nous renonçons à cause de notre assurance de la vie éternelle. Mais si nous faisons ces sacrifices pour rien, alors nous faisons pitié, n'est-ce pas? Donc la résurrection des morts est nécessaire, autrement nous faisons pitié. Donc la résurrection de Christ est nécessaire pour notre foi. Il y a aussi une couple de versets qui ont besoin d'explications particulières, les versets 28 et 29. Le 28 n'enseigne pas que le Seigneur Jésus-Christ soit inférieur au Père, mais le Fils sera soumis à celui qui est lui, a soumis toutes choses en tant que Fils de l'homme. Le Seigneur Jésus est Fils de Dieu et Fils de l'homme. Et l'idée que le Père a tout mis sous ses pieds est une allusion au psaume 8 qui dit « Qui est l'homme pour que tu prennes garde à lui, et le Fils de l'homme pour que tu le visites ?» Donc, il s'agit du Seigneur Jésus en tant que Fils de l'homme qu'il sera soumis, tandis qu'en en tant que Fils de Dieu, il sera toujours égal avec le Père. Donc, ce n'est pas une indication qu'il est inférieur au Père, comme certaines sectes enseignent. Et le verset 29, qu'est-ce que c'est donc ce baptême pour les morts? Bien, il y a plusieurs explications et je n'essaierai pas de les discuter toutes. Celle que je pense la plus probable, c'est que du temps du Nouveau Testament, quand on se fait se baptiser, c'était quasiment comme souffrir d'être le prochain martyr. Souvent, un chrétien est toléré tant qu'il n'est pas baptisé, mais dès qu'il se fait se baptiser, il risquait d'être mis à mort pour sa foi. Souvent, c'était même en dedans d'une heure. Et l'idée est, que feront-ils qui sont baptisés pour aller du côté des morts, ou pour prendre le côté pour s'identifier avec les morts? Oui, pourquoi souffrir pour être le prochain candidat pour un martyr s'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de vie après la mort, aussi bien juste de pas se donner la peine de se faire baptiser si c'est ça que ça peut coûter, et de jouir de cette vie. C'est ça que je pense à l'explication de ce verset, mais je sais qu'il y en a plusieurs autres aussi qui sont plausibles. La résurrection est nécessaire à notre foi et c'est nécessaire à notre conduite. Parce que si nous n'avions pas de vie après la mort, aussi bien alors, comme il est dit au verset 32, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Autrement dit, saisissons les plaisirs de cette vie, faisons ce qui plaît à la chair pendant que nous le pouvons, parce que c'est tout. Après cette vie, on va être enterré sous six pieds de terre et on n'est plus là. C'est une façon logique de vivre si on ne croit pas à une vie après la mort. Donc, pour nous inspirer et nous inciter à avoir une bonne conduite digne du Seigneur, il faut qu'on ait cette assurance d'une résurrection et d'une vie à venir. C'est justement cela qui met tellement la conduite du monde de nos jours à l'envers. Autrefois, quand même les inconvertis croyaient à quelque sorte d'au-delà, croyaient que notre sort dans l'au-delà dépendait de quelque façon de notre vie sur la terre, il y avait moins de crimes et on pouvait faire plus confiance les uns aux autres. Mais ce qui est mais le monde de nos jours à l'envers, c'est le rejet maintenant de la croyance à un au-delà, ou du moins à un au-delà où notre sort dépend de quelque chose dans cette vie. Donc pour que nous ayons en tant que chrétiens une vie et une conduite digne du Seigneur, il nous faut aussi croire à cette résurrection. Ensuite, Paul parle de la logique de la résurrection, les versets 35 à 50. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? En français, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence, puisque Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. tout cher n'est pas le même cher, mais haute est la chair des hommes et celle des quadrupèdes, haute celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais haute est l'éclat des corps célestes, haute celui des corps terrestres, haute est l'éclat du soleil et haute l'éclat de la lune et haute l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un homme vivant. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est le Seigneur du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels aussi sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption mérite pas l'incorruptibilité. Paul parle alors de la logique de la résurrection, le fait que c'est possible d'y croire, parce que comme aujourd'hui, il y avait du temps du Nouveau Testament aussi, les savants, surtout en Grèce, qui disait, voyons donc, la résurrection de mort, on ne voit pas ça sur la terre, on voit des choses vivantes mourir, mais on ne voit pas les morts ressusciter. C'est un mythe, c'est une légende, c'est quelque chose qu'on imagine. C'est pour ça aussi que de nos jours, les prédicateurs modernistes disent que la résurrection veut dire que si on a fait du bien sur la terre, le bien qu'on a fait va vivre après nous, c'est ça l'au-delà. Oui, l'homme regarde la résurrection comme étant quelque chose contraire à la nature et au bon sens. Mais Paul, ce que Paul dit ici nous rappelle ses paroles devant le roi Agrippa quand il a dit « Pourquoi te semblerait-il impossible que Dieu ressuscite les morts ?» Oui, il faut qu'on tienne compte de Dieu et alors on est capable de croire à la résurrection. Et Paul montre que même dans la nature, il y a des indications que la résurrection est logique. D'abord, quand on plante une graine, la graine perd son identité, c'est un genre de mort, et ça produit la vie en conséquence. Alors c'est une espèce de mort qui précède la vie de la même origine. Et il montre aussi plusieurs illustrations montrant différents genres de vie, comme les différentes espèces du règne animal ont différentes vies, différents genres de vie, ainsi que les différences de nature dans les corps célestes. Alors, le raisonnement de Paul, c'est si dans la création que Dieu a faite, il y a une espèce de mort qui produit la vie, et aussi si dans cette même création il y a différents genres de vie, alors serait-ce incroyable que ce Dieu qui a fait cette création puisse faire qu'un mort ressuscite dans un différent genre de vie. Et c'est ça qui va nous arriver. Nous allons mourir, ensuite ressusciter dans un différent genre de vie. Nous allons passer de la vie corruptible à la vie incorruptible. Donc la résurrection est logique si on croit en Dieu et si on ouvre les yeux sur la création que Dieu a faite. Mais même si nous croyons à l'authenticité de la résurrection et la nécessité de la résurrection et la logique de la résurrection, ça n'aura pas une grande utilité à moins que nous sachions aussi l'effet de la résurrection au verset 51 à 58. Quel effet est-ce que ça aura sur nos vies de croire à la résurrection qui nous attend? Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Forskes a core corruptive or a revetu, l'incorruptibilité, et que ce corps mortel or a revetu, l'immortalité, alors se confiera la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. L'effet de la résurrection sur nous sera d'abord une assurance et une consolation, nous rassurant alors que Christ va nous ressusciter, où il y en aura, et puis justement, les chrétiens de notre génération espèrent être de ce nombre, qui ne passeront même pas par la mort, mais qui seront quand même changés, et nous serons même exemptés de ce qui est illustré au verset 37, que ce que tu sèmes doit mourir avant de renaître. En tout cas, nous n'allons pas tous mourir, mais nous serons tous changés et transportés dans cette nouvelle vie incorruptible lors du retour de Christ. Et c'est aussi une délivrance de la crainte de la mort qui nous est accordée. Et vous pouvez trouver ces paroles mystérieuses en premier qui dit que, au verset 56, l'aiguillon de la mort c'est le péché et la puissance du péché c'est la loi. Comment est-ce que la loi pouvait être la puissance du péché? Parce que après tout, c'est Dieu qui nous a donné la loi. Mais la loi et la puissance du péché sont un point seulement. Comment est-ce que le péché met l'aiguillon dans la mort? Tout simplement que nous n'aurions aucune raison d'avoir peur de la mort si nous n'étions pas des pécheurs. Mais puisque nous sommes pécheurs, ça nous donne la crainte de la mort parce que Dieu va nous juger. Le péché nous fait demander, est-ce que je suis prêt à rencontrer Dieu? Et la loi fortifie cette œuvre-là du péché, parce que c'est la loi qui nous rend conscient que nous sommes pécheurs et qui augmente en conséquence notre crainte naturelle de la mort. Mais Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, puisque c'est par le salut que Christ a pourvu que nous avons le pardon. Donc cette œuvre du péché d'inspirer la crainte de la mort est annulée. Et la loi ne nous condamne plus, puisque nous sommes justifiés grâce au sang du Seigneur Jésus. Donc, la résurrection et le pardon du péché enlèvent l'aiguillon de la mort qui était fortifié par la loi qui nous accusait. Et finalement, l'effet de la résurrection serait de nous stimuler pour servir le Seigneur ardemment, parce que contrairement à la mentalité « mangeons et buvons car demain nous mourrons si nous ne croyons pas à une résurrection », contrairement à cela, si nous croyons à une résurrection dans laquelle nous allons paraître devant le tribunal du Christ et donner un compte rendu de ce que nous avons fait dans notre corps, alors bien loin de vivre égoïstement et de saisir tout ce que nous pouvons convoiter pour profiter de cette vie pour nous-mêmes, bien loin de là, travaillons ardemment pour le Seigneur et profitons de cette vie qui est d'une courte durée pour faire quelque chose qui aura une valeur pendant l'éternité. Et ça va tout transformer, changer radicalement toute notre orientation de la vie. Tandis que l'inconverti, celui qui croit que après la mort, il sera juste enterré sous six pieds de terre, tout est fini. Il dit, bien, je veux profiter de cette vie qui passe pour me plaire, pour me satisfaire. À côté de cela, celui qui a l'assurance de la vie éternelle va dire, c'est vrai que cette vie est d'une courte durée, mais j'ai toute l'éternité à venir, alors que cette vie me prépare pour l'éternité, et que cette vie puisse profiter pour accomplir quelque chose qui aura une valeur pendant l'éternité. Et nous pouvons faire quelque chose qui aura une valeur pendant l'éternité en vivant dans la puissance de la résurrection du Christ. Donc, notre résurrection dans lequel nous pouvons vivre déjà comme des ressuscités est essentiel pour notre foi et pour notre vie chrétienne. Nous sommes pleinement assurés de l'authenticité de la résurrection. Nous savons que pour avoir la vraie foi, il faut croire la nécessité de la résurrection. Nous avons un bon raisonnement pour nous montrer la logique de la résurrection, et il nous importe